France Musique. Musicopolis. Silvius Leopold Weiss, l'indispensable luthiste. On a coutume de considérer l'année 1750 comme un jalon important dans l'histoire de la musique, parce que c'est l'année de la mort de Jean-Sébastien Bach. On lui confère le rôle de borne ou de portail entre l'ère baroque et l'ère classique. Eh bien, je m'en vais vous donner une autre portée symbolique de cette date. C'est aussi la fin de l'histoire du luth avec la mort de Silvius Leopold Weiss. Silvius Leopold Weiss, cadet d'un an de Bach, de Handel et de Scarlatti, est sans doute pour son instrument, le luth, le compositeur le plus prolifique de tous les temps avec quelques 600 pièces et probablement aussi l'un des plus grands virtuoses. Comme c'est très souvent le cas à cette époque, l'apprentissage musical de Silvius Leopold Weiss se fait à la maison, avec son père, Johann Jakob, luthiste à Breslau, en Silésie. Apprentissage qui se poursuit jusqu'à ses 19 ou 20 ans, lorsqu'il est engagé par le comte palatin Karl Philipp, à Breslau justement. On raconte une anecdote sur la précocité et la modestie de Weiss. Il a 50 ans en 1736, lorsqu'on lui demande depuis combien de temps il joue du luth. « Depuis 20 ans », répond-il. L'un de ses amis proteste, affirmant qu'à l'âge de 10 ans, il jouait déjà. « C'est vrai », concède Weiss, « mais pendant 20 ans, je me suis accordé. » Alors qu'il est encore dans son premier poste à Breslau, Silvius Leopold Weiss a déjà l'occasion de se faire entendre à la cour de Düsseldorf, à environ 850 km de là. Environ 2 semaines de trajet. Il est à espérer que notre musicien ne répugne pas au voyage, parce qu'il va en faire un certain nombre dans sa vie. Et quoi qu'il en soit, on le réclame à Düsseldorf, c'est donc qu'à 20 ans, il a déjà une certaine réputation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est invité à accompagner à Rome le prince Alexandre Sobieski. Nous sommes à présent en 1708. « À Rome, Silvius Leopold Weiss fait partie de la suite du prince Alexandre Sobieski, qui vit avec sa mère, la reine Maria Casimira. Elle est membre, ainsi que son fils, de l'Académie d'Arcadie, dont fait partie aussi le cardinal Otto Boni, dont les concerts hebdomadaires, organisés par le violoniste et compositeur Corelli, sont très courus. Maria Casimira mène grand train et entretient nombre de musiciens. Elle engage le célèbre Alessandro Scarlatti pour venir monter des opéras dans son palais. En janvier 1709, alors que Weiss est arrivé depuis quelques mois déjà, Scarlatti rentre à Naples. Il se fait remplacer par son jeune fils Domenico, un as du clavecin. Il est très probable que pendant qu'ils sont à Rome, Domenico Scarlatti et Silvius Leopold Weiss ont moult occasions de travailler ensemble. Le luthiste doit tenir la partie de basse continue dans les opéras que le claveciniste dirige pour la reine Maria Casimira. On peut aussi se douter qu'il a l'opportunité de rencontrer d'autres jeunes musiciens qui passent par Rome à la même époque, en particulier Johann David Heinichen, qui sera plus tard son collègue à Dresde. Et aussi celui qu'on appelle le cher Saxon, qui est venu faire en Italie son grand tour d'apprentissage, un genre d'Erasmus. À l'époque où Silvius Leopold Weiss est à Rome, outre les jeunes gens que j'ai déjà cités, de nombreux compositeurs vivent dans la ville sainte. Non seulement Corelli, mais aussi Caldara, Pasquini ou encore Stefani. C'est évidemment pour un jeune homme encore en formation un environnement incroyablement stimulant. Et les 6 années qu'il passe dans la ville sainte vont laisser sur lui une trace indélébile. Musicalement, mais aussi personnellement. Il apprend l'italien. Et c'est probablement aussi durant ce séjour qu'il se convertit au catholicisme. Mais les meilleures choses ont une fin. En novembre 1714, le prince Alexandre meurt à l'âge de 37 ans. Silvius Leopold rentre en Allemagne. Silvius Leopold Weiss a 27 ou 28 ans lorsqu'il rentre en Allemagne après ses 6 ans d'Italie. Il est à la recherche d'un emploi. Il prospecte à Kassel avant d'être pris à Düsseldorf, à la cour palatine. En 1717, il joue à Dresde pour l'électeur de Saxe et il est, informellement, attaché à la chapelle de la cour. Mais il continue à voyager. Début 1718, il est à Londres, où il donne des concerts une fois par semaine. Il a même l'occasion de jouer pour le roi George. Enfin, il décide de se caser pour de bon. En août 1718, il est engagé, formellement cette fois-ci, à la chapelle de la cour de Saxe, à Dresde, chez Auguste le Fort. Lorsque Silvius Leopold Weiss s'installe à Dresde en 1718, Auguste le Fort est en train de faire de sa ville une véritable capitale culturelle et musicale. Il engage les meilleurs instrumentistes pour son orchestre, qui est véritablement une formation de solistes. Au fil du temps, il aura chez lui les flûtistes Buffardin et Quantz, les violonistes Veracini et Pisendel, le pantaléoniste Hebenstreit, les compositeurs Zelenka et Heinichen. Weiss a un rôle central, à la fois soliste dans les situations intimes de la musique de cour et jouant dans l'orchestre lorsqu'il fait partie du continuo. Auguste le Fort en est certainement très fier, puisque très bientôt, il l'envoie avec 10 de ses meilleurs musiciens à Vienne pour accompagner son fils, le prince héritier, qui doit rencontrer sa fiancée. Il s'agit d'impressionner la famille impériale autrichienne et de lui faire sentir toute la valeur de cette alliance. Thank you. Après le mariage du prince héritier à Vienne, le jeune couple revient à Dresde, où ont lieu de nouvelles festivités, notamment la création de l'opéra Théophane d'Antonio Lotti, compositeur qu'Auguste Lefort a fait venir tout exprès de Venise avec une troupe de chanteurs italiens. Il est plus que vraisemblable que lors des représentations de Théophane, Weiss a accompagné au luth cet air, écrit sans doute tout spécialement pour lui. Une manière pour Lotti de faire plaisir à son royal employeur en mettant en valeur l'un de ses musiciens préférés. Il est probable que Silvius Leopold Weiss a de nombreuses occasions de se produire à Dresde pour Auguste Lefort. Pourquoi pas imaginer qu'il a joué ce concerto pour luth de Vivaldi. Vivaldi qui a été le professeur de Johann Pisendel, premier violon de l'orchestre. Peut-être aussi Weiss l'a-t-il joué ailleurs, lors des voyages qu'il a l'occasion de faire avec d'autres musiciens de la cour, toujours dans le cadre de la diplomatie musicale, si l'on peut dire. En 1722, par exemple, il est à Munich avec le flûtiste Buffardin pour le mariage du prince de Bavière. Quelques années plus tard, autre visite royale, cette fois-ci à Berlin, avec Pisendel, Buffardin et Quantz. Weiss reste 3 mois de plus que les autres, sans doute pour donner des leçons de luth à la princesse Wilhelmine. Auguste Lefort avait renvoyé sa troupe de chanteurs italiens juste après le mariage de son fils. Mais celui-ci, une fois devenu roi, sous le nom de Frédéric Auguste II, va remettre au goût du jour l'opéra seria à Dresde. Il va faire venir le célèbre Hasse et Weiss va reprendre son rôle dans la fosse d'orchestre. Il a certainement de quoi s'occuper, il compose toujours beaucoup, pour lui et pour ses élèves, de plus en plus nombreux. Parfois, il fait aussi de la musique avec des visiteurs, Franz Benda, violoniste de Berlin, venu écouter un opéra de Hasse. Jean-Sébastien Bach, venu voir son fils Wilhelm Friedmann, organiste à Dresde. Les titres de gloire de Silvius Leopold Weiss sont nombreux, et parmi eux, un qui a dû compter pendant ses années de Dresde, il a été le musicien le mieux payé de la cour. Ce qui n'a pas empêché qu'il soit oublié dès après sa mort, tandis que son instrument était lui aussi délaissé jusqu'au grand renouveau de la fin du XXe siècle. Pasakai de la sonate en ré majeur de Silvius Leopold Weiss, joué par Yadran Duncombe. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Julien Bourdet pour le mixage. À réécouter sur francemusique.fr.